Romains chapitre 13, versets 11 à 14, au nom de Jésus. Agissez ainsi d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de nous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant que quand nous avons cru pour la première fois. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les œuvres qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qui permettent de lutter dans la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme il le faut à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et de l'ivrognerie, de l'immoralité et des vices, des querelles et de la jalousie. Revêtez-vous de la vie nouvelle qui est en Jésus-Christ le Seigneur et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. Amen. Pour la première fois, j'étais étonné quand je suis arrivé en Europe de voir à la télévision que pour les gens, la partie où on regardait la météo, c'était l'émission la plus suivie. La preuve, on la place toujours avant le journal télévisé et après le journal. Au départ, personnellement, je n'avais pas compris l'utilité, puisque en ce qui me concernait, à chaque fois que j'arrivais à cette partie-là, je zappais. Ça ne m'intéressait pas. Mais au fil du temps, j'avais compris. De plus, j'étais chez ma cousine pendant mes études à Lausanne. Et pendant un bon bout de temps, j'ai remarqué, avant de se coucher, systématiquement, elle prenait son smartphone pour voir les prévisions météorologiques et pour voir qu'est-ce qu'il faudrait préparer comme vêtements pour son fils le lendemain. Et c'est là que j'avais compris pourquoi ce réflexe. Je prends cet exemple pour nous faire comprendre le sens de la phrase de Paul ici au verset 11. D'autant plus, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'est bien l'heure de vous réveiller du sommeil. Oui, posons-nous cette question, chers frères et sœurs. Dans quel temps sommes-nous? Et avant de répondre à cette question-là, et avant de faire une actualisation de ce questionnement dans notre vie, il faudrait d'abord savoir ce qui en était au moment où Paul l'a dit à son lecteur. Il faut savoir l'arrière-plan historique se situer au temps des Romains. Et à travers ce texte, on peut voir que Paul mettait en garde les chrétiens à Rome, issus d'une classe noble. Car si le texte fait référence d'orgie, de beuverie, cela sous-entend que ces personnes, c'était des chrétiens qui assistaient à des grands banquets romains. Et ce n'était pas monsieur tout le monde qui allait, qui avait accès à ce genre de repas. C'était les élites, la classe supérieure. Donc Paul s'adresse à ces gens-là. De plus, si nous regardons bien le début de ce chapitre 13, Paul donne des prescriptions éthiques aux chrétiens de Rome dans le type de comportement que les chrétiens de l'époque devraient adopter vis-à-vis de leur supérieur hiérarchique. Le chapitre 13, on parle d'obéissance aux autorités de l'État. Donc Paul ici martèle que l'autorité civile a été instituée par Dieu et c'est vrai qu'elle mérite le respect. Ça, il ne le nie pas. Mais à partir du verset 11 à 14, Paul fait une mise en garde qu'il y a des limites à ne pas franchir pour un chrétien. Il donne une consigne claire. Ne pas aller au grand banquet, car ce n'était pas de simples fêtes, mais il y avait autre chose derrière. Il y avait des pratiques païennes pour vénérer un culte religieux. Ça, c'était le contexte. On ne le voit pas ici dans le texte, mais il faut regarder dans d'autres documents en parallèle. Et en réalité, ces banquets étaient dédiés pour le dieu Dionysos. Ce dieu Dionysos était célébré par des orgies. Mais on cachait cela par une simple invitation. Venez, votre supérieur hiérarchique vous invite à assister à des banquets. Mais quand on arrivait à ces moments-là, il y avait des cultes païens. Et les Romains organisaient deux grandes fêtes pour ce dieu, à l'arrivée du printemps et à l'automne. Et c'était l'ère du temps. Alors Paul ici attire l'attention de la communauté de Rome qu'il est vrai que le chrétien n'est pas coupé de la société, mais cela ne veut pas dire qu'il doit suivre le mouvement avec les yeux fermés. Quelle serait alors la position qu'un chrétien doit prendre? D'un côté, il a son supérieur qui l'invite à ce banquet. De l'autre côté, il sait très bien ce qui va se passer pendant ces moments-là. Et je reprends l'exemple que j'ai pris au tout début de cette méditation. Dans quel temps sommes-nous? Pour eux, c'était clair. Nous n'allons pas vivre aux marges de la société comme les Amish ou chez les Ménonites qui sont encore coincés au 19e siècle. C'est pas ça la mise en garde. Nous n'allons pas nous aussi nous cloîtrer dans un monastère ou dans un couvent en croyant que là au moins nous serons en sécurité et que peut-être le péché ne pourra pas nous atteindre dans ces lieux-là. C'est pas vrai. La preuve, Martin Luther, c'était au monastère qu'il avait senti ces sensations de culpabilité cloîtrées dans une petite pièce, mais il croyait vraiment être coupable devant Dieu. Donc même si on va s'isoler dans le désert, dans un monastère, le péché nous atteindra toujours. Et là, indiscutablement, la prière sacerdotale de Jésus me revient à l'esprit. Voilà ce qui est dit dans cette prière sacerdotale. Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Je dis bien du mauvais, c'est-à-dire le mal, le diable. Consacre-les par la vérité, c'est ta parole qui est la vérité. Oui, chers frères et sœurs en Christ, nous avons notre place dans ce monde. Et nous devons avoir notre place dans ce monde. Il a été créé par Dieu. Donc les enfants de Dieu ont aussi le pouvoir d'y vivre pleinement et de bénéficier tous les biens que le Seigneur a créés. Nous ne sommes pas appelés à fuir le monde. Parfois, nous avons une attitude étonnante, comme si nous avons peur de vivre, les chrétiens. Si nous ne prenons pas la place qui nous mérite, alors le mauvais va nous la voler. Le mauvais ou le voleur, comme dit Jésus, ne vient que pour voler, abattre, détruire. Mais moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Un enfant de Dieu, il peut profiter de la vie que Dieu lui a donnée. Il peut vivre sa jeunesse pleinement, comme les autres jeunes. Il peut s'épanouir dans la vie. La vie chrétienne n'est pas une vie d'oppression ou une vie sans ou une vie sous contrainte, pardon. Toutefois, l'enfant de Dieu, en vivant dans ce monde-ci, il faut aussi se rappeler qu'il est déjà parmi le royaume de son Père. Il vit déjà le royaume du Père. Et donc nous sommes encore plus que gagnants. Nous profitons de la vie ici-bas, mais en même temps, nous vivons déjà dans un autre royaume, le royaume de la lumière. Et c'est ça le message de l'Avent. Nous ne sommes pas appelés à quitter ce monde, mais nous sommes à vivre notre vie dans ce monde, tout en vivant déjà la vie éternelle, ici-bas. Il n'est pas fermé et emprisonné par ce qui est présent. Mais en ayant une lecture de ce qui se passe autour de lui, la réalité, les actualités, le cours de l'histoire, le chrétien, il est déjà projeté dans le futur en même temps. Il sait cela, que cela doit arriver. Et c'est notre différence avec le monde. Le monde, savez-vous, est emprisonné dans le temps présent. Il ne voit que ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est à cause de ça, ce n'est pas étonnant de voir des personnes qui tombent dans la dépression parce qu'il y a tellement cette peur du lendemain et ils sont coincés dans le présent. Les chrétiens, eux, ils vivent le présent, mais ils vivent déjà aussi le futur en Christ. Ils pensent que vivre se résume à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, ils tombent dans l'excès. Ils ne croient pas à une vie éternelle. Ils ne croient pas à une vie après cette vie. Et donc, on boit sans réfléchir, comme on a vu tout à l'heure dans la lecture avec Noé. Ils mangent sans réfléchir. Ils s'amusent sans réfléchir. Ils vont dans l'excès parce qu'ils pensent que la vie se résume qu'au présent. Et tout compte fait, l'excès qui existe dans le monde, ce n'est que le symptôme d'une absence d'espoir. Quand on n'a pas d'espoir pour l'avenir, alors on se dit, il faut profiter du moment. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain, alors je profite de ma jeunesse. Je profite de ma santé. Je profite de mon argent. Dans la crainte que ce présent se termine brusquement. Voilà quelqu'un qui est sans espoir. Et c'est l'image qui a été reprise par Jésus dans Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 40, qui dit « En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En effet, aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. » Voyez-vous, ils étaient tous enfermés dans une bulle. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, que le monde est dans une bulle. La fête, les amusements. Et c'est ça, la stratégie du diable. Il nous met dans une bulle. Il n'y a pas de mal à cela, de s'amuser, il n'y a pas de mal à cela, à faire la fête. Mais quand ça devient une prison, ça nous limite dans notre façon de voir la vie. Et ils n'ont pas pu faire une lecture du temps présent. À nous, aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à déchiffrer ce qui se passe. J'aime bien cette façon de Jésus qui explique cela. Il nous invite à lire les signes des temps. Venez, lisez les signes du temps. Il dit, quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Il dit bien, redressez-vous. Ce n'est pas une menace que Jésus fait, non. Au contraire, c'est un encouragement pour dire que face à ce qui se passe dans le monde, l'enfant de Dieu est appelé à se redresser. Il se peut qu'à un certain moment, nous fléchissons aussi. Il se peut qu'à un certain moment, nous dormons parce que parfois, le combat est difficile. Le combat est assez acharné. Mais le Seigneur nous envoie des signes. Et ces signes-là, les enfants de Dieu, ils doivent savoir les déchiffrer. Et ces signes nous permettent de dire, réveille-toi, ne te laisse pas avaler par ce monde. redresse-toi et lève ton regard vers le Seigneur. C'est un message, pour moi personnellement, un message d'espoir. Quand on dit « redresse la tête », c'est pour voir en haut, plus loin, non pas juste sous nos yeux. À Dieu seul la gloire pour les siècles des siècles. Amen.